Il est 13h.
Bonjour, les droits de douane américains et de nombreuses questions encore ouvertes ce matin. Pourra-t-on par exemple renégocier avec les États-Unis? Et si oui, avec quels arguments? C'est en tout cas l'espoir de nombreuses entreprises touchées. On entendra dans ce journal des sous-traitants, eux aussi impactés par ces taxes américaines. Au Vatican, près d'un million de jeunes catholiques du monde entier attendus aujourd'hui pour la veillée de prière de ce soir avec le pape Léon XIV. C'est le point d'orgue du jubilé. Notre correspondant en Italie a rencontré des Valaisans qui ont fait le déplacement. Le Tour de France féminin également dans ce 12-30, avant-dernière étape aujourd'hui avec le mythique col de la Madeleine au programme, un col inédit pour les femmes. Et puis vous vous apprêtez peut-être à prendre votre café, mais est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé le café? Le point J de jour du jour se pose la question. Météo, ciel plutôt ensoleillé cet après-midi, 21 degrés au mieux, voilà le menu. Bienvenue dans ce 12-30. La gueule de bois pour l'économie suisse au lendemain du coup de massue des droits de douane américains, 39% pour la Suisse. Ce matin, le co-directeur du COF, le centre de recherche conjoncturelle de l'EPFZ, évoque une augmentation massive du chômage partiel et des suppressions d'emplois ces prochains mois. Il le dit dans la presse alémanique. Et Déborah Solbank, ce ne sont pas que les entreprises qui traitent directement avec les États-Unis qui sont impactées.
Oui, prenez l'arc jurassien, une région remplie d'entreprises actives en sous-traitance, horlogères, beaucoup, mais pas uniquement. Nombreuses de ces entreprises livrent en Suisse à des partenaires qui, eux, vont exporter. Or, le contexte est déjà complexe, hein. Francfort, baisse d'activité globale, beaucoup d'entreprises ont activé le chômage partiel. C'est le cas depuis mars dernier de G et Y Leuenberger SA, une entreprise qui fait du décolletage dans le domaine de l'horlogerie, mais aussi de la connectique ou de l'appareillage. Et avec ces surtaxes qui vont s'appliquer sur ses clients, Boris Leuenberger, directeur, craint de les perdre.
Ce que ça risque d'engendrer, c'est fondamentalement une délocalisation de l'approvisionnement de nos partenaires qui sont suisses. La zone euro étant attractive, ils savent faire probablement autant bien que nous. Ce qu'on risque de voir, c'est des partenaires ou qui nous mettent une pression folle sur nos prix ou alors qui vont directement s'approvisionner en zone euro.
L'entrepreneur ne cache pas sa colère vis-à-vis du Conseil fédéral et l'échec des négociations. Il lance un appel. Nous avons besoin d'être compétitifs. La situation est très critique. Le secteur de l'industrie et de la microtechnique a besoin d'un soutien fort de l'État. Sinon, les pertes à moyen et long terme seront catastrophiques.
Et Déborah, la difficulté de ces entreprises, c'est qu'elles ne peuvent rien faire.
Oui, Maxime Auclin l'exprime très bien. Il est le repreneur de l'entreprise familiale Auclin SA, actif en sous-traitance horlogère, notamment dans le polissage de précision.
On a une situation qui est très particulière dans la mesure où on ne produit aucune pièce. On travaille en sous-traitance pure avec des partenaires qui nous fournissent des pièces et qu'on renvoie terminées. Donc pour nous, l'impact sera purement subi. Donc s'adapter va être assez compliqué parce que les tarifs qu'on facture sont essentiellement dus au travail qui est fait chez nous par nos gens. Et renier les prix, c'est globalement pas vraiment possible, surtout sur de la très haute valeur ajoutée.
Ses clients sont touchés en première ligne. Lui, comme tant d'autres dans la région, est impacté par ricochet. Les acteurs parlent d'une véritable bombe à retardement et s'inquiètent des conséquences à long terme, notamment de la perte de savoir, de savoir-faire, véritable marqueur identitaire dans la région. Une perte qui aura un coût, je cite, probablement impossible à chiffrer, mais monumental.
Vos explications. Merci Déborah Solbank. Et parmi les réactions après ce choc des 39% annoncé par Washington en vigueur dès le 7 août, eh bien, beaucoup de voix appellent à renégocier, mais est-ce réellement possible? Question posée ce matin à Philippe Nel, ancien négociateur pour la Confédération.
Eh bien, je pense qu'il est impossible de prédire combien de temps il nous faudra pour se sortir de cette situation qui est très grave pour la Suisse. Et la raison principale, c'est que pour Donald Trump, nous avons un excédent commercial qui est beaucoup trop volumineux, près de 40 milliards, un. Et deuxièmement, la Banque nationale suisse, depuis déjà fort longtemps, doit prendre des mesures pour limiter l'appréciation du franc suisse et ceci n'est pas prêt de changer tout de suite.
Donc à vous entendre, difficile de renégocier?
Tout à fait.
Et le délai très court, j'imagine, ne plaide pas forcément en notre faveur?
Non, il ne plaît pas en notre faveur et de surcroît, le président Trump a beaucoup de dossiers sur sa table. Et pour que le dossier suisse revienne, eh bien je pense qu'il faudra des éléments nouveaux.
Et quels éléments nouveaux, justement, on pourrait imaginer? C'est vrai que les arguments de la Suisse sont connus depuis quelque temps déjà.
Eh bien, c'est très difficile justement. En effet, moi j'étais très surpris de voir que la Suisse n'avait pas signé la déclaration d'intention qu'elle a conclue au début du mois de juillet avec les États-Unis. Dans cette déclaration, on a déjà mis beaucoup, s'agissant de nos investissements, de notre contribution à la recherche, à l'emploi aux États-Unis, également à la formation aux États-Unis par le biais de l'apprentissage, si bien que je crois qu'on devrait insister sur le fait qu'il y a une différence de traitement si énorme avec l'Union européenne, qui est notre principal concurrent sur le marché américain, que pour nous, c'est tout à fait une situation qui est tout à fait intenable.
Est-ce que menacer, ça peut marcher? On entendait certains politiciens qui proposaient, pourquoi pas, de renoncer à l'achat des F-35 ou imposer les entreprises américaines ou encore punir les GAFAM. Ça peut être efficace à vos yeux?
Non, pas du tout. Parce que tout simplement, la part de la Suisse dans le monde des affaires des États-Unis est tout à fait minime au niveau militaire pour les F-35 ou que ça soit encore dans d'autres domaines.
Et la question aussi, si on veut renégocier, est-ce qu'il faut le faire encore avec l'administration Trump ou il faut vraiment un contact direct avec le président américain?
Je pense que les deux seront nécessaires, mais on devra bien sûr commencer avec l'administration qui, elle, apparemment, nous soutenait, parce que c'est elle qui doit convaincre son président. Moi, j'ai eu des cas à la Confédération également, dans lesquels, eh bien, je recevais des signaux de l'extérieur, mais c'était mon rôle ensuite de convaincre le Conseil fédéral, parce que c'est lui qui décide.
Voilà, c'était l'analyse de Philippe Nel, ancien négociateur pour la Confédération. Et sur un autre front, Donald Trump a demandé le renvoi de la chef de la principale agence de statistiques économiques des États-Unis. Cette demande intervient après la publication de mauvais chiffres de l'emploi, des chiffres truqués selon le président américain pour donner une mauvaise image des républicains et de lui-même. Mais Donald Trump l'affirme sans avancer de preuves de cette manipulation. Donald Trump, toujours qui a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires en réaction à des commentaires jugés incendiaires de l'ancien président russe Dmitri Medvedev à propos des ultimatums lancés par le président américain à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une poussée de fièvre entre Moscou et Washington, mais faut-il y voir une sorte de retour à la guerre froide? Pas vraiment, à entendre André Caspi, historien spécialiste des États-Unis et professeur émérite à la Sorbonne.
Je pense qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Russie, c'est incontestable. Mais d'un autre côté, il ne faut pas imaginer qu'on est au bord de la guerre. Les sous-marins nucléaires, les États-Unis en ont, si je ne me trompe, 14. La Russie en a également 14. C'est-à-dire qu'au fond, ces sous-marins nucléaires sont pour les uns sur les eaux ou sous les eaux et pour les autres prêts à s'engager. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, de tout cela, c'est que Donald Trump n'est pas partisan de la guerre. Ce qui le caractérise, si vous voulez, c'est l'art de la négociation, l'art of deal. Donc, je ne crois pas du tout à ce que les choses dégénèrent au point qu'il y ait une guerre entre les États-Unis et la Russie.
L'historien André Caspi qui s'exprimait ce matin chez nos collègues de France Info et Donald Trump n'a pas précisé où exactement ces sous-marins seraient envoyés. À Tel Aviv, des centaines de personnes se sont réunies ce matin sur la place des otages pour soutenir les familles dont les proches sont encore retenus à Gaza. Un rassemblement d'urgence après la publication de 2 vidéos montrant des otages affamés filmés dans les tunnels du Hamas et du djihad islamique et suppliant le gouvernement israélien de terminer ce conflit pour être libéré. À Tel Aviv, Sharon Aronovitch.
Assez, hurle le père de Guy Ilouz, kidnappé le 7 octobre. Sous un soleil accablant, les familles d'otages se sont réunies pour crier leur désespoir après la publication de 2 vidéos d'otages extrêmement difficiles à regarder. On peut y voir Rom Braslavski et Eviatar David, 2 jeunes Israéliens kidnappés au festival Nova. Dans les tunnels de Gaza, ils apparaissent affamés, la peau sur les os, et supplient à la caméra d'être libérés.
Combien de vidéos doit-on encore regarder, ressentir, endurer sans pouvoir apaiser cette souffrance sans fin? Bientôt, ça fera 2 ans de douleur indescriptible, 666 jours de trauma.
Adam Hadjadj, le cousin de Rom Braslavski, prend le micro et s'adresse à la foule.
Cette vidéo, je n'ai pas pu la regarder plus d'une fois. Mes cauchemars se sont empirés, la dose de mes médicaments a augmenté et la mort a commencé à me paraître plus attirante que la vie. Nous ne pouvons plus endurer cela, pas une minute de plus, sans le ramener à la maison.
Pour faire pression sur le gouvernement, les familles appellent le public israélien à descendre massivement dans les rues ce soir.
Comment peut-on accepter cela? Comment se fait-il que nous ne soyons pas dans la rue à mettre ce pays à feu et à sang?
L'émissaire américain Steve Witkoff, toujours en visite dans la région, est arrivé sur la place pour s'entretenir avec les familles, leur seul espoir pour un accord immédiat. Sharon Aronovitch, RTS Tel Aviv.
Et sans libération des otages israéliens dans la bande de Gaza, le combat continuera sans répit, déclaration du chef d'état-major de l'armée israélienne au cours d'une visite à ses troupes dans le territoire palestinien. À Rome, des centaines de milliers de jeunes débarqués des quatre coins du monde pour se réunir autour du pape. Le jubilé des jeunes bat son plein en ce moment au Vatican. Ce soir, veillée de prière géante avant la grande messe avec Léon XIV demain matin. Sur place, Antonino Gallofaro a suivi un groupe de jeunes suisses.
Une quarantaine de Valaisans est arrivée à Rome, à vélo, plus de 10 jours de voyage. L'arrivée dans la ville sainte, en début de semaine, a marqué Louis.
Quand on est arrivé sur la place Saint-Pierre et que tout le monde s'écartait, nous applaudissait... Ça, c'était le moment le plus marquant. C'est incroyable parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie, d'être avec autant de croyants au même endroit. C'est une ambiance extraordinaire et puis on arrive tellement mieux à prier quand on est autant au même endroit, je trouve.
Les jeunes sont impatients de rencontrer le nouveau pape demain lors de la messe finale. Mais certains l'ont déjà vu lors de l'audience générale ce mercredi. Et de très près, c'est le cas du groupe de Valaisans, Viviane.
Il est vraiment passé tout proche de nous, il nous a salués, on a une photo avec lui. C'était vraiment incroyable. Le pape, moi je trouve qu'il est vraiment très proche des gens, il a l'air très simple, très sympa et son visage donne envie de le connaître et il a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller vers lui.
Le groupe de cyclistes est accompagné par un ancien garde suisse, Martin. Il a servi François et aujourd'hui c'est en pèlerin qu'il rencontrera le nouveau pontife.
C'est vrai que le pape doit avoir cette facilité avec les gens, avec les jeunes et j'ai l'impression que le pape Léon XIV, il comprend les gens, il comprend les jeunes. Il a eu des discours assez touchants, assez engagés. Donc j'ai pour l'instant une très bonne impression en tout cas de ce point de vue-là.
L'ambiance en permanence festive touche Pauline et Mathieu.
Je suis particulièrement impressionnée par l'ambiance aussi très agréable, les gens sont hyper accueillants.
Vraiment chouette, moi je ressens beaucoup de foi et d'espérance le fait d'être tous ensemble. Nous on n'a pas pu assister à la messe sur la place Saint-Pierre, mais on l'a assisté dans la rue et il y avait quand même toujours cette foi et ça montre aussi que la foi, elle n'a pas vraiment de barrière.
Et les centaines de milliers de jeunes du monde entier se retrouvent dès ce soir pour une veillée de prière géante. Antonino Gallofaro, RTS, Rome.
On part sur la route, les routes de France. Elle départ dans moins d'une heure à Chambéry de la 8e et avant-dernière étape du Tour de France féminin de cyclisme. C'est l'étape reine de ce tour avec au menu le midi col de la Madeleine. Patrick Delétro, vous suivrez cette étape. C'est une ascension inédite pour les femmes.
Oui, effectivement, plus de 18 kilomètres de montée pour terminer cette étape. Ça va être très, très difficile. Ça va être vraiment la bagarre entre les favorites pour le classement général. Cette fois-ci, impossible de se cacher pour notamment Demi Vollering, qui est la grande favorite annoncée. Kim Lecourt, la Mauricienne, aura beaucoup de peine à garder son maillot aujourd'hui. En France, on attend évidemment aussi beaucoup Pauline Ferrand-Prévot, qui a déjà annoncé qu'elle allait sans doute attaquer aujourd'hui dans ce fameux col de la Madeleine avec un nouvel élément, c'est qu'il pleut beaucoup ici à Chambéry au départ de ce matin. Il y a une très très grosse averse qui vient d'arriver, donc voilà, c'est un autre élément.
Et puis la genevoise Élise Chabet qui porte pour l'instant le maillot à poids de meilleure grimpeuse, est-ce qu'elle va pouvoir le défendre aujourd'hui?
Écoutez, on est justement à côté du bus FDJ Suez de l'équipe d'Élise Chabet. On attend de voir la genevoise. Alors officiellement, ça n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est le maillot jaune pour Demi Vollering. Mais on sait que Élise est intéressée à avoir ce maillot à poids. Et puis, c'est peut-être significatif pour la genevoise parce que le premier col à franchir, c'est le col de Plainpalais. Donc voilà, c'est comme finalement un appel pour elle pour aller peut-être chercher les points de ce col. Mais pour la fin de l'étape, elle devra aider Demi Vollering.
Merci Patrick Delétro en direct donc de Chambéry. Et puis au programme sport du jour, une possible deuxième médaille de Noé Ponty en natation lors des championnats du monde en grand bassin de Singapour. Le Tessinois de 24 ans sera même l'homme à battre cet après-midi en finale du 100 mètres papillon. Il y a signé hier le meilleur temps des demi-finales. Et puis du football aussi aujourd'hui, la deuxième journée de Super League. Servette est le seul club roman en lice aujourd'hui. Les Genevois accueillent Saint-Gall à 18h à la Praille. Ils tenteront de se relancer après leur élimination de mercredi en Ligue des Champions. Sur les routes aussi, le traditionnel chassé-croisé de l'été, les vacanciers de juillet qui croisent ceux du mois d'août et des embouteillages aux deux extrémités du tunnel du Gothard. Peu après 11h, la file atteignait 7 km à l'entrée sud et 11 km au portail nord, soit un retard pouvant aller jusqu'à 1h50. Patience donc sur la route en France. Déjà plus de 500 km de bouchons étaient également enregistrés en milieu de matinée selon Bison Futé. 12h44, vous passez peut-être au café. Mais en fait, le café, c'est bon ou mauvais pour la santé? C'est la question qu'on se pose dans le Point J du jour avec Juliane Roncoroni, un épisode en nouvelle diffusion.
Salut, c'est Juliane. Au moment où j'enregistre ce point J, on est le matin, c'est 9h et vous avez bu combien de café, vous ? Moi, j'en suis à mon quatrième.
4 ?
Ah ouais, 4, quand même.
Faut faire attention, hein, Juliane, c'est pas bon pour ta santé.
Ouais, puis tu sais qu'on peut devenir accro au café ?
Ah, ça va.
Faut faire attention, hein, Juliane.
Ces petites voix super insistantes dans ma tête, je les entends souvent. Est-ce que vous aussi, cette histoire de nombre de cafés, ça vous fait culpabiliser ? Je vous pose cette question parce que je viens de tomber sur une étude américaine publiée début janvier et qui dit un peu le contraire. En gros, les chercheurs et chercheuses de l'université de Tulane affirment dans cette étude que boire du café le matin réduirait le risque de décès cardiovasculaire de 31% et la mortalité globale de 16% par rapport à celles et ceux qui n'en boivent pas. Bon, là, j'avoue, je suis un peu confuse. Le café, au final, c'est bon ou mauvais ?
Le point J, le point J.
En préparant cet épisode, j'ai découvert sur les réseaux sociaux une star du café de l'autre côté des Alpes, la barista la plus âgée d'Italie. Elle a 100 ans.
Bonjour madame, io sono Anna Pocci.
Elle gère un petit bar dans la commune de Nebbiuno dans le Piémont.
Je suis con questo bar dal 1958.
Je gère ce bar depuis 1958. Mon bar, c'est ma vie. Je vis ici de 7h du matin à 19h le soir et j'attends que quelqu'un vienne. Si les gens arrivent, très bien. Sinon, demain est un autre jour.
Si arriva gente bene, se non arriva, domani è un altro giorno.
Et si vous tapez son nom sur le net, vous verrez, elle est super connue, même au-delà des frontières italiennes. Du coup, elle nous racontera plus tard ce que le café représente pour elle. Rendez-vous à la fin de cet épisode. Et avant, j'ai discuté des bienfaits du café avec Thierry Favrocoun, médecin et addictologue au HUG. Mais avant...
Du coup, boire ou crème sucre ?
Bonjour Thierry Favrocoun.
Et bonjour.
Cette étude qui affirme que boire du café le matin réduirait les risques de maladies cardiovasculaires, est-ce qu'elle est fiable ?
Oui, elle va tout à fait dans le sens d'autres études qui ont montré cela également. Ce qui est relativement nouveau par rapport à ce qu'on a pu lire jusque-là, c'est la temporalité. Boire du café serait meilleur le matin que plus tard dans la journée.
Vous parliez justement de cette super étude qui a rassemblé 40 études. Quels sont les effets scientifiquement prouvés du café sur la santé ?
C'est absolument phénoménal comme compilation d'études qui a observé plus de 3,8 millions d'individus dans plusieurs pays différents. L'étude que vous avez citée précédemment a observé 40 000 individus, ce qui est déjà énorme d'ailleurs. Et cette très grande méta-analyse de 2019 fait une association, pour être précis, entre la mortalité totale, donc le risque de mourir de n'importe quelle cause, avec la consommation de café. Et là, les résultats sont très impressionnants puisqu'il y a une baisse de la mortalité de 15% durant la durée d'observation pour la mortalité toutes causes confondues. Et cela avec un maximum autour des 4 tasses de café par jour. Après, la courbe remonte un peu vers la mortalité de base, mais reste largement encore bénéfique, même pour des personnes qui boiraient jusqu'à 7-8 tasses de café par jour.
Bon, point important avant de continuer cet épisode, Thierry Favrocoun souligne que ces études sont observationnelles. Ça signifie qu'elles montrent une association entre la consommation de café et ses bénéfices pour la santé, sans prouver scientifiquement que le café est directement la cause de ces effets. Mais plusieurs indices solides nous suggèrent qu'il pourrait bel et bien y avoir un lien causal entre le café et ses bienfaits, et ses principaux éléments sont...
Le fait que de multiples études à de multiples endroits du globe retrouvent tout le temps les mêmes résultats. Deuxièmement, le nombre extrêmement important d'individus observés, proche de 4 millions. Ensuite, il y a le fait qu'en augmentant les doses, on augmente l'effet. Donc l'effet est plus grand à 2 qu'à 1, puis qu'à 3, qu'à 2 et qu'à 4, qu'à 3. Ça, c'est un autre argument. Également, ce qu'on peut dire, c'est que ces études, elles ont été corrigées pour tous les éléments qui pourraient nous induire en erreur, qui sont connus, tels que le taux d'activité physique, le sexe, l'âge, le poids, la consommation de tabac, etc.
Bon, maintenant qu'on a précisé ce point, on peut continuer.
Ça veut dire qu'on vit plus longtemps si on boit du café, c'est ça ?
Absolument, on peut tourner ça dans ce sens. En tout cas, c'est très clair que c'est lié aux maladies cardiovasculaires, à la diminution du risque cardiovasculaire, donc les problèmes de cœur et de vaisseaux, aux problèmes métaboliques, notamment le diabète, c'est-à-dire finalement le taux de sucre dans notre organisme, avec un effet favorable aussi sur le poids, aussi sur le fonctionnement musculaire, aussi sur les maladies respiratoires. C'est une des premières études également qui a montré un petit effet plutôt à des doses de café plus faibles, plutôt dans les 2 tasses par jour sur les cancers, également sur les autres causes de mortalité. Donc c'est très puissant, ouais.
C'est très puissant, mais tout ça, ce n'est pas grâce à la caféine.
Alors en effet, ce sont dus à d'autres composants du café, principalement des polyphénols, qui sont des antioxydants et qui finalement diminuent une espèce de stress qui se porte sur tout être vivant, qui est l'oxydation, et qui peut être rapproché aussi du vieillissement et de l'atteinte finalement aux cellules, au corps biologique. Et ces antioxydants, nous protègent les éléments de notre corps et sont bons pour la santé, mais ne sont pas en lien avec la caféine elle-même, donc la molécule psychostimulante qu'on trouve dans le café.
La caféine, ce stimulant, quel effet bénéfique elle peut avoir ?
Ça va être plutôt des effets ressentis ou recherchés par les consommateurs, les consommatrices de café. Principalement une augmentation de l'énergie ou autrement dit diminution de la fatigue. Mais de façon intéressante, ça s'est démontré uniquement chez des personnes qui n'ont pas assez dormi, qui sont fatiguées. Puis malheureusement, ça arrive quand même régulièrement. Alors le café va nous aider. Il y a également un effet positif sur la concentration et la mémorisation. Voilà, donc ça explique pourquoi notamment des étudiants vont utiliser souvent du café à bon escient dans des périodes d'examen ou pour préparer des examens.
Là, vous parlez de la mémoire, on va dire, courte. Est-ce qu'il y aurait des effets sur la mémoire au long terme ?
Oui, donc à court terme, on est sur l'effet du psychostimulant. Mais à plus long terme, alors il s'agirait de s'intéresser à la santé ou plutôt au vieillissement du cerveau. Et là, il y a aussi des données qui tendraient à dire que la consommation de café diminuerait la survenue de démence, le déclin cognitif et également la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on a dit avant, parce qu'on sait que ce qui atteint les vaisseaux et le métabolisme dans le corps, notamment les questions liées au sucre, ça atteint également notre cerveau. Ça veut dire qu'une bonne vascularisation est essentielle à une bonne santé de notre cerveau. Et puis, il y a un adage populaire qui dit « on a l'âge de ses vaisseaux ».
Ok, je résume. On a parlé de bénéfices sur la santé cardiovasculaire, musculaire, respiratoire, cérébrale et on peut rajouter santé mentale aussi. Oui, Thierry Favrecoun le dit, des études démontrent une association entre consommation de café et morale. On parle d'effets protecteurs contre la dépression et le suicide. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette boisson a longtemps été perçue comme mauvaise pour le cœur. Aujourd'hui, on y voit plus clair. On sait que le café augmente de façon transitoire la tension artérielle chez les non habitués. En revanche, pas d'effet significatif sur les buveurs et buveuses réguliers. Et puis, on craignait aussi une dépendance à la caféine. On sait aujourd'hui que la moitié des buveurs et buveuses réguliers de café peuvent ressentir un manque à son arrêt, maux de tête, fatigue. Mais le café ne remplit pas les critères permettant de définir une dépendance comme une maladie. On ne peut donc pas devenir accro au café comme on devient accro à l'alcool, au tabac ou à la cocaïne.
On évoquait tous les bénéfices que les antioxydants et le stimulant, la caféine de cette boisson peuvent nous amener. Maintenant, quels sont les effets indésirables du café ?
Les effets indésirables vont principalement être subjectifs, c'est-à-dire concerner certaines personnes. Les personnes qui supportent mal, dans le fond, ce stimulant-là et qui vont être surstimulées. Donc, qui peuvent devenir anxieuses, insomniaques. On entend des gens autour de nous qui nous disent « Ah ben moi, à partir de telle et telle heure, je ne peux plus boire de café, sinon je ne dors plus ». Et bien sûr, il faut que les personnes en tiennent compte. Si on consomme des stimulants, il vaut mieux les consommer en début de journée qu'en fin de journée pour pouvoir ensuite se coucher, dormir et se reposer.
Est-ce que le café, il agit un peu différemment selon si je suis une femme, un homme, si je suis une personne âgée ou jeune ?
Les études ont montré que les bénéfices du café sont un peu plus importants chez les hommes que chez les femmes. probablement c'est en lien avec la protection des estrogènes sur le risque cardiovasculaire et l'effet bénéfique du café sur les maladies cardiovasculaires, dont bénéficieraient un peu plus les hommes étant plus à risque, et également les personnes plus jeunes, moins de 60 ans par rapport aux personnes de plus de 60 ans. Il y a un certain nombre de déterminants de santé qui se jouent à ce moment-là et qui se jouent pas plus tard. Si on a déjà, par exemple, de l'athérosclérose, des artères partiellement bouchées, le café permettra sans doute pas de retourner en arrière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est certainement contre-indiqué aussi pour des personnes, voilà, qui souffriraient de troubles anxieux, qui supporteraient mal l'effet de la caféine, ou des personnes qui auraient eu un problème cardiovasculaire récent. Mais quand on dit récent, on parle vraiment de, voilà, quelques mois, pas au-delà de ça.
Je me demandais aussi si le café décaféiné, il a finalement les mêmes bienfaits que le café classique.
Absolument, puisqu'on a dit les bénéfices ne sont pas liés à la caféine, mais sont liés à d'autres composants du café, des antioxydants. Alors le fait d'enlever la caféine ne change pas fondamentalement les vertus positives du café pour la santé.
Vous m'avez accueilli pour cette interview et vous m'avez demandé si je voulais du sucre ou de la crème. Est-ce que ça aussi, ça a une influence?
En règle générale, ces études ont tout le temps été faites avec du café noir, donc seulement du café. On a parlé que beaucoup d'effets bénéfiques du café sont à travers des bienfaits métaboliques. Donc ça veut dire qu'ils concernent les graisses, le sucre, enfin vraiment toute cette chimie interne de notre corps. Et du coup, si on rajoute dans la boisson du sucre et du gras, enfin à travers de la crème ou du lait, on change fondamentalement sa composition et ses vertus. Donc on peut s'attendre que si on consomme pas le café tout seul, eh bien on va diminuer les bénéfices liés à sa consommation.
Merci beaucoup Thierry Favre-Kuhn.
Mais avec grand plaisir.
Le café, c'est un peu toute ma vie, car la plupart des produits que je vends dans mon bar en contiennent.
Anna Posti a 100 ans, c'est la barista la plus âgée d'Italie. Son premier café, elle l'a servi il y a presque 80 ans. Et moi, je lui ai tout d'abord demandé si, au-delà d'en servir, elle en buvait aussi.
J'en buvais quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je ne peux plus. Ça me fait monter la pression. Mais je me contente du parfum. Je me rappelle que mes premiers cafés, je les ai servis en 1947. Il y avait alors déjà les machines espresso à levier. Aujourd'hui, elles sont toutes automatiques. Un temps, le café, c'était uniquement un mélange. Puis on a commencé avec le café d'orge, le ginseng, le café décaféiné, le café de chicorée. Aujourd'hui, chacun a ses goûts. On me demande de faire des cafés à l'américaine, des marocchini. Le café est devenu une tendance. L'autre jour, une dame m'a demandé un café avec de la crème fouettée, celle qu'on met sur le chocolat chaud. Puis il y a ceux qui le veulent long, court, mousseux, sans mousse. Ah là là, travailler derrière le comptoir demande vraiment de la patience. Si ce que les chercheurs racontent sur le café est vrai, eh bien je vais dire à mes clients, au lieu de boire un café, buvez-en deux, puisque le café rallonge la vie. Vous avez bien fait de me le dire, je vais désormais dire, madame, votre espresso, prenez le double.
Et vous, vous êtes plutôt americano, flat white, café noir ou espresso macchiato comme le candidat estonien à l'Eurovision 2025? Merci pour votre écoute et à très vite.
Le Point J, un épisode en nouvelle diffusion signé Juliane Rancoroni. Météo cet après-midi, passage à un temps assez ensoleillé sur le plateau, en partie ensoleillé dans les autres régions et avec quelques averses isolées jusqu'en début de soirée sur le versant nord des Alpes, le nord du Jura et en direction de la Suisse alémanique. Il fera au mieux 21 degrés, puis pour demain bien ensoleillé malgré des voiles nuageux.
Tournée romande, Antonin Scherrer. Deuxième symphonie de Kurt Weill par Marc Minkowski et l'orchestre de chambre du Festival de Verbier. Premier mouvement de la sonate à Kreutzer de Beethoven par Leonidas Kavakos et Enrico Pace à Vevey. Deuxième concerto pour piano de Rodion Chedrin dans une lecture d'Anna Fedorova et une nouvelle fois de l'orchestre de Verbier, mais cette fois-ci dirigé par Gianandrea Nozeda. Chandos Anthem de Handel proposé à Vevey par les musiciens du Louvre, Marc Minkowski. Quatuor de ma vie de Smetana par les Emerson à Divonne, symphonie inachevée de Schubert par l'OSR et Hans Holliger. Vous avez bien fait de choisir Espace 2 pour mettre de l'harmonie dans votre après-midi. Yann Nering à la programmation, on est parti pour 2h30 de captation live réalisée dans toute la Suisse romande. On commence avec une petite rareté, la deuxième et dernière symphonie de Kurt Weill. Weill qu'on assimile d'abord à la musique de scène, mais qui sait, lorsqu'on lui en fait la demande, s'évader dans d'autres espaces. Ici, c'est la princesse Edmond de Polignac, la grande mécène parisienne, qui s'adresse à lui au début des années 30. Weill est exilé dans la capitale française, et il travaille alors sur les 7 péchés capitaux. La création a lieu le 11 octobre 1934 au Concertgebouw d'Amsterdam, sous la direction de Bruno Walter, puis plus rien jusque dans les années 80. C'est Marc Minkowski et l'orchestre de chambre du Festival de Verbier qui nous servent ici ces 3 mouvements en concert Salle des Combins le 4 août 2012. Thank you. très rare, deuxième symphonie de Kurt Weill, ici offerte par Marc Minkowski et l'orchestre de chambre du Festival de Verbier. Ils étaient en concert salle des Combins le 4 août 2012 à Verbier. À suivre dans votre fauteuil d'orchestre sur Espace 2, le premier mouvement, un adagio sostenuto suivi d'un presto de la 9e sonate pour violon et piano en la majeure, dite sonate à Kreutzer de Beethoven. C'est sous l'influence de la Nouvelle-France que voit le jour cet opus 47, dédié au violoniste français Rodolphe Kreutzer, professeur au tout jeune conservatoire de Paris, fondé en 1795. Leur première rencontre a lieu en 1798, lors de l'éphémère ambassade de la République de France à Vienne. Beethoven avait alors pu se faire une idée précise des exigences et des formes nouvelles de la musique française post-révolutionnaire, mais Kreutzer n'interprétera jamais l'œuvre en public, la jugeant inintelligible, avis partagé par la critique viennoise qui n'hésitera pas à parler de terrorisme musical. Elle a été écrite en toute hâte à l'initiative du jeune violoniste mulâtre d'origine anglo-polonaise George Polgrin Bridgetower, en vue d'un concert viennois mis sur pied en mai 1803 et édité 2 ans plus tard à Bonn chez son ami Nikolaus Simrock. N'en déplaise à l'Allgemeine Musikalische Zeitung, encore elle, qui estimait que Beethoven avait poussé le souci de l'originalité jusqu'au grotesque, cette sonata mulatica, comme la surnommera avec sarcasme Beethoven lui-même en référence tant à son dédicataire qu'à son style composite, parfois plus proche du concerto que de la sonate, est aujourd'hui l'une des plus appréciées des violonistes. Ici, Leonidas Kavakos, en compagnie du pianiste Enrico Pace, en concert le 7 septembre 2012 au Théâtre de Vevey dans le cadre du Septembre musical.